Bienvenue au Pôle Sécure, épisode spécial Sécure. Je suis accompagné de D. Mathieu. Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Je suis Mathieu Faou, donc Mathieu avec deux T. Je suis chercheur en logiciel malveillant au bureau 17 à Montréal. Puis depuis à peu près 6 ans, je traque des APT ou des acteurs qui font du cyberespionnage. Puis, je fais du reverse engineering des malwares qui sont utilisés lors de ces campagnes de cyberespionnage.
Et moi, c'est Mathieu Tartar, donc le Mathieu avec un seul T. Je suis aussi chercheur en logiciel malveillant au bureau de 17 de Montréal. Et je fais pas mal la même job que Mathieu, de la recherche sur les groupes de cyberespionnage, en analyse du malware, en analyse leur infrastructure, on étudie leur mode opératoire.
Super intéressant. Vous avez présenté justement l'analyse de la situation ukrainienne. Mais avant d'aborder, j'aimerais ça savoir encore, parce que je suis très curieux, c'est en quoi consiste votre travail? Parce que pour moi, c'est très abstrait. Puis j'imagine que pour beaucoup de gens, c'est très abstrait de voir des personnes qui travaillent comme ça puis qui décortiquent un peu les codes malveillants. Comment vous les obtenez? Qu'est-ce que vous arrivez? Comment vous analysez? Puis justement, jusqu'à l'écriture des rapports qui sont, ma foi, très intéressants.
Du coup, pour commencer par expliquer qu'est-ce que c'est I7 en deux, trois mots. Donc, c'est une compagnie qui vend des logiciels de sécurité comme des antivirus, par exemple. Ces antivirus, ils vont être installés sur des millions, même des dizaines de millions d'ordinateurs. Puis, quand il va y avoir une attaque qui est détectée, suivant comment le logiciel a été configuré par l'utilisateur de I7, ça peut ou non remonter de la télémétrie à nos serveurs. Puis nous, ensuite, on va pouvoir, dans le back-end, utiliser cette télémétrie. Pourquoi la télémétrie, donc c'est du metadata, c'est des fichiers suspects. Puis donc nous, on va pouvoir utiliser cette télémétrie pour essayer de trouver des attaques qui n'auraient pas été détectées, par exemple, ou qui ont été partiellement détectées, dans le but, d'une part, d'améliorer le produit, de faire le profil des attaquants, puis... Une fois qu'on a un profil d'attaquant, on va pouvoir essayer de le suivre dans le temps. Donc essayer de suivre les nouvelles attaques, les évolutions de leur logiciel malveillant, suivre l'évolution de leur infrastructure réseau. Donc, par exemple, en scannant l'Internet, on va être capable de trouver des serveurs qui sont similaires aux serveurs de contrôle utilisés par les attaquants. Puis donc, comme ça, au fil du temps, on va pouvoir vraiment avoir une vue d'ensemble de leurs opérations, de leur infrastructure, de la victimologie. Qui les intéresse.
Et puis on va aussi croiser ces données-là avec d'autres sources que notre propre source interne. On va aussi utiliser des sources publiques comme Virus Total, par exemple, ou d'autres services pour pouvoir recroiser nos données et puis un peu plus étoffer nos résultats aussi. C'est de la recherche qui va être basée sur nos données privées, mais également sur d'autres sources publiques ou semi-publiques.
Super intéressant. Et ça vous a amené justement à tomber sur l'analyse pour l'Ukraine, dans ce cas-ci, dans lequel vous nous avez présenté, qui était fort intéressant parce que vous l'avez analysé depuis, dans le fond, 2014-ish, ou dans le fond, où le premier geste offensif de la part de la Russie a été fait sur l'Ukraine. Et à voir, dans le fond, parce que tu sais, on ne se cachera pas, c'est essentiellement la Russie qui s'en prend à l'Ukraine dans ce cas-ci. Ces groupes-là, on semble avoir été coordonnés avec les volets militaires des Russes. Et dans quelle mesure vous êtes capable de faire de la corrélation entre justement ces mouvements-là entre les deux?
Je ne sais pas si on irait jusqu'à dire qu'il y a une corrélation, ou au moins une corrélation temporelle. Après, de là, je vais pouvoir donner peut-être quelques exemples juste après, mais de là à dire qu'il y a une vraie corrélation et puis qu'il y a vraiment une synchronisation entre qu'est-ce qui se passe sur le terrain, qu'est-ce qui se passe dans le cyber, on n'irait vraiment pas jusque-là, mais pour donner quelques exemples, là, quelques heures juste avant l'invasion en février 2022, il y a eu d'une part des attaques de DDoS contre des sites web importants en Ukraine, donc, compris des sites web ou des ministères ou des grandes banques ukrainiennes. Puis un peu après, on a eu une attaque avec un wiper, donc c'est un logiciel malveillant qui va effacer toutes les données sur le disque d'une machine. Donc ce wiper a été déployé dans plusieurs organisations, il me semble autour de 5 organisations importantes en Ukraine. de façon à mettre hors service leur parc informatique. Et donc, quelques heures après, donc cette attaque, c'est ce qu'on a appelé Hermetic Wiper. Puis donc, quelques heures après, on va voir l'invasion des troupes russes en Ukraine. Donc, il y a... Dans ce cas-ci, il y a quand même une forte corrélation entre ce qui s'est passé. Puis après, par exemple, en octobre 2022, si vous vous rappelez, il y a eu pas mal d'attaques de missiles contre le système énergétique ukrainien. Puis ce même mois, on va avoir des attaques de wipers ou de faux rançongiciels, c'est-à-dire des rançongiciels qui ont tout l'air d'un rançongiciel, mais c'est juste une apparence. En fait, l'objectif, c'est pas de gagner de l'argent ou même de fournir une clé. Vous pouvez payer, on ne fournira jamais une clé pour déchiffrer votre donnée. Donc c'est un wiper déguisé en rançongiciel. Puis donc on a eu des attaques de ce type contre de l'infrastructure, contre les entreprises qui travaillent dans le domaine énergétique en Ukraine.
Oui, ben, je cherchais pas nécessairement une corrélation forte, là, mais tu sais, on voit, là, on est capable d'associer, là, par l'observation, là, sans que ça soit nécessairement très fort. C'est très intéressant. D'ailleurs, comme tu mentionnes, au niveau énergétique, les Russes ont l'air d'avoir un attrait très fort à attaquer les infrastructures énergétiques, autant au niveau kinétique, comme tu mentionnais, mais ils l'ont fait à deux reprises de façon majeure, autant en 2014, de façon peut-être un peu plus, à mes yeux, un peu plus artisanal avec nos yeux de maintenant. Là. Mais à l'époque, ça devait être probablement beaucoup plus sophistiqué par rapport à ce qu'on peut analyser maintenant. Et un deuxième retour, justement, avec des outils beaucoup plus, moi, je dirais, intenses en termes de volonté de vouloir créer des soucis importants.
Oui, bah, on a quand même vu l'évolution que tu parlais de Black Energy en 2015, ouais, qui est une backdoor qui sert principalement à faire de l'espionnage habituellement et qui a servi à prendre le contrôle d'ordinateurs qui servaient à contrôler le réseau énergétique. Là, les attaquants, finalement, ils n'avaient pas eu besoin de vraiment de préparation différente d'une cyberattaque habituelle. Ils ont juste pris le contrôle d'une machine et puis ils ont pu utiliser le UI que les employés de l'entreprise électrique ukrainienne utilisait.
Ouais, il n'y a pas de fonctionnalité propre au monde de l'énergie ou au protocole industriel, en tout cas. Et c'est sûr que, oui, avec un Industroyer qui est arrivé en 2016, là, on a quand même un saut en termes de sophistication, puisque là, on n'a pas un malware d'espionnage habituel qui permet de prendre le contrôle de machines, mais il y a un malware qui supporte, qui est capable de communiquer avec les protocoles de communication industriels qui sont utilisés dans les sous-stations électriques ukrainiennes, en l'occurrence IEC-104, IEC-61850 notamment. Donc ça, c'est sûr que c'est une montée claire en sophistication, puisque ça veut dire qu'ici, les attaquants ont dû faire leur devoir, comprendre comment interagir correctement avec les bons protocoles au bon moment, avec les équipements ukrainiens, qui sont probablement des équipements russes, hein, d'ailleurs, puisque on se doute qu'une partie du réseau électrique ukrainien est basée sur des équipements russes. Mais ceci étant dit, ça enlève pas la difficulté de s'interfacer correctement avec le réseau électrique ukrainien pour pouvoir réussir à couper le courant comme ils ont réussi à le faire notamment avec Black Energy par le passé, mais Black Energy c'était de façon complètement manuelle, alors que dans le cas d'Industroyer, c'est une opération automatisée.
Oui, puis d'ailleurs, vous avez remarqué que le premier, qui est Black Energy, a eu un succès beaucoup plus grand, somme toute, que le deuxième. Fait que c'est intéressant de voir que la sophistication n'a pas nécessairement de lien avec la résultante d'une attaque. Même si, d'un point de vue, vous autres, comme analyste, vous voyez l'intérêt d'analyser un cas plus sophistiqué, beaucoup plus intéressant. Ça veut pas de corrélation forte avec la réussite de la dite attaque à ce moment-là. C'est ça qui est, c'est un élément très important. Chapeau pour avoir fait pris le temps de l'avoir fait. Est-ce que vous avez constaté cette montée en compétence ou en sophistication dans d'autres attaques où il y a un niveau plus variable selon les circonstances?
Alors, il y a des cas où on a pu observer plus une réduction de la sophistication, on pourrait dire, avec ce que tu as présenté notamment dans la partie sur les wipers, même sur Industroyer 2 d'ailleurs, je pense qu'on peut aussi dire qu'on observe une réduction de la sophistication des malwares qui sont observés. Je ne sais pas si tu veux rajouter.
Oui, ça, par exemple, Industroyer 2, qui a un malware assez similaire à la première version d'Industroyer. Donc, Industroyer 2 a été utilisé contre une entreprise énergétique ukrainienne en avril 2022 pour tenter de couper l'électricité. Et donc, c'était basé sur le même code source que Industroyer, mais les fonctionnalités étaient vraiment beaucoup plus basiques. Donc, en fait, je ne sais pas si on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une montée en sophistication des attaquants. C'est sûr que si on compare 2014 à 2016, oui. Si on compare post-2016, non, pas forcément. Puis, ça dépend. La sophistication, ce n'est pas non plus utiliser quelque chose de très complexe pour avoir un petit impact. Généralement, ils vont avoir un groupe d'attaquants qui est assez expérimenté, il va utiliser juste le niveau de sophistication nécessaire pour conduire le but final de l'attaque.
Ouais, je suis d'accord avec ça. Et tu dépenseras pas d'énergie pour rien ou plus loin que ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif dans ce cas-ci. Et on pourrait, dans le fond, présumer que l'attaque en 2016, il y avait des ambitions beaucoup plus grandes et finalement ont été défaites et probablement qu'ils se sont repliés sur des stratégies ou des tactiques qui sont beaucoup plus payantes en termes de réussite et de capacité de réussite parce qu'ils ont quand même réussi à faire quand même depuis 2016, un certain nombre de dommages quand même non négligeables.
Et puis, au-delà de l'énergie déployée, c'est aussi le fait que les outils les plus sophistiqués, ils ne veulent pas nécessairement les brûler. Parce que une fois qu'ils sont détectés et qu'ils sont connus, que ce soit par exemple un Zero Day ou un malware vraiment sophistiqué, mais une fois qu'il est connu et qu'il est détecté, bon, c'est plus un outil aussi utile dans leur arsenal.
Ouais, ben, ils doivent avoir des choix stratégiques qui sont accompagnés à ça. Puis probablement qu'ils ont appris de leur raté de 2016 en justement en conséquence. Parce que là, ils ont littéralement brûlé quelque chose de très, très fort. Puis avec un résultat finalement sans effet réel là, dans leur objectif. Fait que c'est un apprentissage de leur côté. Mais c'est un peu aussi de voir. C'est peut-être l'augmentation en maturité des attaquants aussi qu'on pourrait supposer en arrière de ces éléments-là. Là, on parlait de l'énergie, ça a attaqué aussi le système bancaire ou financier a été attaqué aussi, il y en a d'autres éléments. Puis ça va être intéressant parce que c'est par chaîne d'approvisionnement, un peu comme on a vu avec SolarWinds aussi à certains égards.
Là. Oui, du coup, depuis 2016, il y a eu pas mal d'attaques de SolarWinds contre le système financier, notamment en Ukraine. Puis la plus connue, c'est probablement NotPetya qui a disons pas mal dérivé probablement par rapport à l'objectif initial puisqu'il y a finalement en compromettant beaucoup d'entreprises en Ukraine ça s'est propagé à des entreprises mondiales qui avaient des branches en Ukraine puis donc ça a eu des impacts majeurs y compris contre finalement des entreprises russes. On a noté par exemple Rosneft, qui est une entreprise, une très grosse entreprise pétrolière russe, qui a été fortement impactée par NotPetya, qui est quand même assez ironique.
Ouais, ben oui, puis ça, c'est un autre axe aussi, j'aimerais ça vous entendre, parce que là, on est dans un contexte d'attaque ciblée. Parce que c'est plutôt rare, parce que là, tu sais, au début de la guerre, on s'énervait beaucoup en Occident, on dirait, c'est ça, les Russes vont attaquer partout. Clairement, c'est pas leur modus operandi. Clairement, ils sont vraiment dans un modèle d'attaque ciblée, exception de NotPetya qui est une ratée en quelque sorte, si on pourrait la qualifier comme ça, mais les restants sont vraiment toujours des attaques qu'on fait personnalisées, destinées à des cibles très définies. Dans ce cas-ci, généralement en Ukraine, c'est vraiment ce que vous avez observé?
Oui, on n'a pas vraiment observé de dérives. Les wipers, par exemple, même ceux qui se propageaient avec des vers qui étaient capables de se propager dans le réseau, ça se propageait vraiment dans le réseau local et ça s'est jamais sorti ailleurs. Puis, on a observé pas mal de ciblages en Ukraine. Il y a eu aussi des attaques contre la Pologne, c'est quand même à noter, mais y compris de faux rançongiciels, donc par exemple attaquer des entreprises de logistique en Pologne. Mais on n'a pas vu des dérives comme avec NotPetya. Par contre, il faut quand même noter qu'il y a des acteurs russes qui continuent à cibler les États occidentaux. Donc, on peut noter par exemple Turla ou les Dukes, qui sont des acteurs qui font de l'espionnage principalement contre des diplomates occidentaux. Mais ils n'ont pas changé leurs habitudes et ils ont continué à... Ils n'ont pas vraiment ciblé l'Ukraine depuis le début de la guerre et ils ont continué leur activité habituelle à cibler des diplomates occidentaux.
Ben, ça change pas leur modèle d'affaires. Là. Je sais pas parce qu'il y a une guerre que le modèle d'affaires a changé. Là. Ils doivent vivre comme tout le monde. Donc, on suppose qu'ils continuent à opérer de la même façon. Est-ce que vous avez vu des informations, des choses continuent justement par des acteurs plus criminels qui sont là pour voler de l'argent, qui ont découlé dans ces attaques-là que faites contre l'Ukraine? Ou c'est vraiment tout vraiment très, très personnalisé ou adapté à l'Ukraine?
Je pense pas non. On pourrait penser à... On ne va pas travailler sur ça directement, mais les opérateurs de Conti, justement, qui ont fait un peu l'actualité sur ça, qui sont des opérateurs d'un rançongiciel qui s'appelle Conti, justement, où, qui sont mis un peu à cibler des cibles ukrainiennes, mais au-delà de ça, j'ai pas d'exemple qui me vienne en tête personnellement.
Non, on a plus quand même observé les acteurs étatiques russes s'attaquer à l'Ukraine plutôt que des cybercriminels.
Fait qu'on est vraiment dans un cas qui va devenir probablement textbook, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un acteur qui attaque un autre d'un modèle cyber. En fait, une vraie cyberguerre au sens où on entend de plus en plus en parler, mais pas une guerre, tu sais, faut pas genre j'ai fait un DDoS sur un site, mais vraiment des actions comme on pourrait qualifier une des actions militaires dans ce cas-ci.
Oui, exact. Puis ça pour l'aspect cybercriminel, c'est dur à dire aussi parce que probablement qu'une partie des acteurs de cybercriminalité sont en Russie, mais pas tous. C'est généralement avec leur modèle d'affaires où le travail est divisé, il y en a aussi une partie qui ne sont pas du tout en Russie, qui sont dans des pays occidentaux et qui n'ont pas forcément intérêt à aller attaquer l'Ukraine de manière idéologique.
Effectivement. Ça me fait le tour de pas mal les questions que j'avais par rapport à votre présentation que j'ai trouvé très intéressante. Est-ce qu'il y a des sujets que je n'ai pas couverts que vous aimeriez peut-être approfondir ou remettre en lumière?
J'ai rien qui me vient en tête là dans les médias.
Donc, je pense qu'on a quand même passé pas mal sur les sujets les plus importants de la plantation.
Je vous remercie énormément. C'est la présentation est très intéressante. Merci de votre temps, merci de votre générosité parce que tout ça est super apprécié.
Avec grand plaisir.
Merci pour l'invitation.
Merci pour l'invitation.